Bonjour à tous. Vous allez bien sous ce soleil radieux? On va bientôt pouvoir ouvrir la piscine, j'ai l'impression. Peut-être pas quand même, hein. Ça fait vivre Dominique. Bien, on a des nouvelles de notre frère Philippe et de notre sœur Marie-Claire Navès qui sont au Togo. Tout se passe bien, ils ont rencontré toutes les autorités, et ils ont toutes les autorisations et c'est magnifique. Ils sont très contents. Là, ce matin, ils m'ont envoyé des photos, ils sont dans un marché. Ils achètent des produits locaux, ce que je vous recommande de faire aussi. Si vous habitez à la campagne, achetez des produits chez les paysans. Voilà, c'est dit, mais je vais le redire encore tout à l'heure. Voilà, on va lire Luc chapitre 17, verset 2. Il est inévitable qu'il y ait des scandales. C'est Jésus qui parle, hein. Mais malheur à celui qui en est responsable. Quand c'est dit malheur à celui qui en est responsable, ça veut dire maudit celui qui en est responsable. Il vaut mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. C'est clair. Mieux vaut ne pas vivre que d'en arriver là. Vendredi, je vous parlais de la tolérance. Mais là, Jésus parle de la peine de mort. Vous voyez, Jésus parle de la peine de mort. Nous devons aimer comme Jésus enseigne d'aimer. Sinon, ça ne vaut pas la peine de vivre. Alors, il y a, avant ce scandale épouvantable de l'abus des enfants, des viols des enfants et toutes ces choses-là, il y a tout un panel d'horreurs qui peuvent se produire. Et nous autres chrétiens, nous ne sommes pas de ce monde. Nous devons vivre comme Jésus dit qu'il faut que nous vivions. Et Jésus sympathisait avec ceux qui étaient tombés dans la tentation. Il aidait ceux qui étaient tombés dans le mal, il les aidait à se relever. Et ceux qui enseignent l'évangile doivent prier avec ceux ou celles qui se sont égarés. C'est ce que nous nous efforçons de faire. Enfin, s'ils veulent pas écouter, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, hein. On va pas non plus leur courir après et faire de l'acharnement thérapeutique. Jésus ne faisait pas ça, hein. Il a parlé avec le jeune homme. Le jeune homme était tout triste parce qu'il était riche. Et puis Jésus lui disait qu'il fallait tout vendre. Il a tourné les talons, il est parti. Jésus l'a laissé partir. Il n'a pas couru derrière. Nous non plus, on ne court pas derrière les gens. Mais on a compassion, on les aime. L'enseignant doit parler avec les malfaiteurs, les encourager dans la bataille contre les forces obscures, mais Jésus est très sévère avec ceux qui scandalisent un petit, un enfant. Absolument. Mais aussi, je pense que ça veut dire que Jésus veut que nous ne scandalisions pas une personne un peu simple, un peu bébête, qui fait confiance à Jésus, et Dieu sait s'il y a pas mal de chrétiens qui sont un peu bébêtes. L'apôtre Paul déjà le considérait à l'époque, il disait « Considérez un frère qu'il n'y a pas beaucoup de gens intelligents parmi nous ». Et c'est vrai que bon, il faut pas les scandaliser. Celui qui fait s'égarer une personne un peu simplette, un peu insignifiante, et qui fait confiance à Jésus, il vaudrait mieux qu'il soit jeté dans la mer avec une meule autour du cou. Nous devons absolument pas scandaliser les petites gens, et surtout les petits enfants. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer toutes les bêtises que les enfants font sans les corriger. J'avais vu une vidéo un jour, c'était des gens qui faisaient la queue à la caisse et dans un supermarché, et puis le gamin, il cognait la dame devant avec son caddie, lui cognait les chevilles, et la dame disait « Arrête, ça fait mal, s'il te plaît, arrête !» Puis il continuait. Et puis au bout d'un moment, elle lui a foutu une gifle au gamin, parce que c'était énervant, trop énervant. Et la mère a dit « Mais de quel droit vous faites ça? J'ai mon enfant comme je veux !» Alors, la bonne femme qui recevait les coups avec le caddie a pris un pot de confiture et puis elle l'a versé sur la tête de la bonne femme. Elle a dit « Ma mère m'a aussi élevé pour que je fasse comme je veux !» J'ai trouvé ça rigolo et voilà. Voilà. On vit dans un monde où maintenant, on ne corrige plus les enfants, même c'est illégal de leur donner la fessée. On doit aussi corriger ceux qui font, qui sont des chrétiens un peu bébêtes, et puis qui sont méchants. On doit au moins essayer de les corriger, c'est assez difficile, hein, je reconnais, parce que comme ils sont adultes, ils se prennent pour... voilà. Vous savez, j'ai 74 ans et je me suis pris des bonnes fessées quand j'étais petit, et je remercie mon père de me les avoir données. C'était pas ma mère, hein. Ma mère, elle disait « Attends ce soir, tu vas voir ton père ». Alors mon père arrivait, et ma mère disait « Ton fils », elle disait pas « Michel », elle disait « Ton fils a fait ça ». Mon père rentrait dans la chambre, sans colère, et il me foutait ce qu'on appelait une rouste, c'est-à-dire une bonne fessée. Il avait des mains, on aurait dit des battoirs. Ça faisait mal, mais bon, voilà, c'était... Ben, j'en suis pas mort, hein. Aujourd'hui, la fessée est illégale. Ben, vous voyez le résultat. Les mœurs et les coutumes du monde ne sont pas conformes aux principes de la loi de Dieu et ne respirent donc pas son Saint-Esprit et ne reflètent pas le caractère de Jésus. Je parle des mœurs et des coutumes de ce monde. Jésus a dit « Vous n'êtes pas de ce monde ». Qu'est-ce que Dieu dit ? Proverbe 23, 13. Proverbe 23, 13. Pourquoi j'ai marqué 13 et puis après j'ai marqué 24. C'est plutôt 13-24. Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. Dans d'autres versets, dans les Bibles anciennes, c'était marqué il déteste son fils, celui qui ménage sa verge. Mais ils ont enlevé le mot verge parce que maintenant les gens sont tellement tordus. Voilà. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas. Ils voient des cochonneries partout. Alors évidemment, on ne doit pas corriger l'enfant quand on est en colère. Parce que si on le fait, c'est nous qui péchons. Mais on doit le corriger. Alors, évidemment, on ne va pas lui foutre des coups de bâton, mais on doit le corriger, même physiquement, une bonne fessée, ça ne fait pas, ça les tue pas. Hein. Jacques, chapitre 1, verset... Vous allez me dire, ça a 2000 ans, ça, maintenant, ça a changé, on a évolué. Alors, vous trouvez que ça a évolué, vous? Vous trouvez que le monde va bien, que ça a évolué, que c'est bien, maintenant? Jacques 1, 20... Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, faut pas, ça sert à rien, il faut pas faire quand on est en colère. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. Si vous corrigez votre enfant, il faut pas le faire dans la colère. Colossiens 3, 21, il est dit. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Si nous corrigeons nos enfants en étant en colère, ça va être trop fort. Dieu lui-même nous corrige parce qu'il est notre Père aimant. Il nous aime, alors il nous corrige. Regardons dans Hébreux, chapitre 12, verset 7. Voilà ce qui est dit. Supporter la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Ah. Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Voilà. D'ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas d'autant plus nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie? Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard, chez ceux qu'elle a ainsi exercé, un fruit porteur de paix, la justice. Je me rappelle quand j'avais fait une bêtise et que ma mère me disait « Tu vas voir ton père ce soir ?» Quand j'entendais la voiture arriver, waouh, c'était pas un sujet de joie, hein. J'allais me planquer dans ma chambre, mais bon, rien n'y faisait, il rentrait. Et il savait même pas quelle bêtise j'avais fait, ou des fois ma mère lui disait, ou des fois simplement elle lui disait « Va lui foutre une tournée, sale gamin, il a fait une vie pas possible aujourd'hui. » Et puis je me prenais une trempe aussi, on disait. Et puis voilà, j'en suis pas mort, et puis ça m'a appris à avoir la crainte de mon père, de ma mère, c'est-à-dire de les respecter. La crainte, ça veut pas dire la peur, ça veut dire la peur de leur déplaire, la peur de les mettre dans cet état-là. Parle avec l'enfant d'abord, qui a fait une bêtise. Et puis ensuite, quand tu lui as parlé, que tu es calme, qu'il a compris, bah tu lui dis, bah maintenant je vais foutre une fessée. Alors je sais que si M. Macron écoute ma prédication, elle va être, bon, ma page va être bannie, n'est-ce pas? Bah tant pis, moi je vous dis, je suis appelé à prêcher l'évangile, je suis pas appelé à prêcher les coutumes de ce monde actuel de malades mentaux, pardon. Mais je trouve qu'on vit dans un monde de malades mentaux. Corriger comme la Bible dit de le faire. De même avec les gens qui sont un peu bornés, ou qui te disent des sottises, des imbécilités, des trucs bêtes, voilà. Il faut leur parler, Et après, il faut les corriger. On va pas donner une fessée aux gens. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise, sinon ben, ils ne s'agissent pas, ils resteront stupides, superstitieux et un peu niais. Voilà. Bon. Il y en a qui ne comprennent pas. Alors, quand ils ne comprennent pas et puis qu'ils boudent, moi je dis « Seigneur, tu t'occupes d'eux ». Alors là, ça devient grave, parce que quand c'est Dieu qui s'occupe des gens, s'ils les aiment, hein. Prendre une fessée de la part de Dieu, c'est pas rigolo, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas rigolo. Par contre, quand Jésus parle de scandaliser un petit, on comprend bien de quoi il parle. Et je suis de tout cœur avec ceux qui ont été victimes de viols et d'abus sexuels de la part d'adultes. Et ce que Jésus dit au sujet des agresseurs n'est pas tendre du tout, et je lui donne pleinement raison. On va lire Lévitique 19, 17, 18. Lévitique 19, 17, 18. Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Alors, bon, on ne doit pas détester un frère, mais une personne qui viole un gamin, pardon, c'est pas un frère. Non. Il peut être curé, prêtre, pape, pasteur, tout ce que vous voulez, c'est pas un frère. Un frère ne fait pas une chose pareille. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui ne fait pas une chose pareille. C'est non. Par contre, il faut, il dit là, reprends ton prochain. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. C'est-à-dire que si on ne reprend pas, on est complice. On est complice, on se charge d'un péché. C'est grave, hein? On n'a pas à haïr ces gens, parce que ça serait aussi se charger d'un péché. Puis on ne va pas le jeter à la mer non plus, parce que ça ne se fait pas, c'est illégal, mais là vraiment c'est bien, on comprend, hein. Moi je ne me vois pas prendre un curé, puis lui mettre une meule de moulin, puis le jeter à la mer, c'est un crime, ça ne va pas, mais c'est pour nous donner une importance, voilà, pour nous montrer l'importance de la chose. Par contre, il y a des autorités qui ont le droit, bibliquement parlant, de le faire. On va prendre Romains chapitre 13, verset 4. Romains chapitre 13, verset 4. Voilà, non, 1 à 6, on va dire. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Alors, là, j'entends les cris, les hurlés, des gens, ah bon, c'est Dieu qui a institué les autorités qui existent. Attendez. Il y a de l'intelligence dans la parole de Dieu. Là, je suis en train de vous lire un texte, mais je vous lirai autre chose tout à l'heure. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre le magistrat quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée. L'épée, c'est pas pour chatouiller derrière les oreilles. Hein? Après l'épée, ils ont inventé la guillotine. Après maintenant, c'est toutes sortes d'autres moyens pour tuer les gens qui ont vraiment. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien que le magistrat porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est pour ça aussi que vous payez vos impôts. Ce qu'on doit à l'État, on le doit à l'État. Si on ne le paye pas, on pêche. Car les magistrats sont serviteurs de Dieu et s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, honneur et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors vous me direz, oui, tout ça c'est bien, mais oui, je suis d'accord avec vous. Le problème aujourd'hui, c'est que les autorités sont corrompues. Ils ne servent plus Dieu, ils se servent elles-mêmes. Vous savez, nous avons besoin, et on a encore eu besoin dernièrement, des pompiers qui sont venus pour un frère qui souffrait, puis on a fait, le SAMU est venu, et ils l'ont emmené à l'hôpital pour le soigner. On a besoin des pompiers, on a besoin de la police aussi. Moi, je trouve scandaleux que des gens caillassent la police. Non, bien sûr qu'il y a parmi les gens de la police des gens qui sont pas corrects, mais quand même on a besoin de la police. Mais en tout cas une chose c'est certaine, on n'en a pas besoin tous les jours. Par contre on a besoin des agriculteurs et des éleveurs tous les jours. C'est pourquoi je vous exhorte à soutenir leur combat actuel. Si vous avez le bonheur d'habiter à la campagne comme nous, allez acheter vos produits directement à la ferme. Nous, on le fait. Bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas trouver à la ferme, par exemple le sel, comme disait Fernand Reynaud. Mais j'ai vu, non mais vous rendez compte, peut-être que je suis mal tombé dans le mauvais magasin, mais franchement, quand on sait qu'un kilo d'oignons rouges est acheté 50 centimes par une grande surface et qu'ensuite c'est revendu 7,80 euros aux clients, c'est-à-dire à nous, c'est quand même honteux, c'est du racket. Bon, je sais que c'est pas partout aussi cher dans les grands magasins, mais quand même, ça existe. Le chou-fleur, 70 centimes payés aux paysans par les grandes surfaces est revendu 5,95 euros Vous voyez le pourcentage qu'ils font? C'est pas du commerce, ça, c'est du racket. Ben, il y a une manière de dire non à ça. Et même si vous habitez en ville, ça vous coûtera moins cher de prendre la voiture, d'aller un petit peu plus loin dans la campagne pour acheter à la campagne des choses plutôt que de les acheter au supermarché qui vous vole. Bonjour Monsieur Leclerc, bonjour Madame Auchan, bonjour Monsieur... Ah non, Auchan, ça n'existe plus. Si, ça existe encore. Carrefour, tout ça. Oui, il y a besoin, c'est pas possible. Le paysan, il n'a pas tout ce qu'il faut, mais... Évitez le plus possible. Soutenez les paysans. Regardez ce qui est écrit dans Daniel 4, 14. Daniel 4, 14. Cette parole est un décret des veilleurs, c'est-à-dire des anges. Cette décision est un ordre des saints, c'est-à-dire de ceux qui sont les véritables enfants de Dieu, afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne, la royauté, la présidence, à qui il désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas, le plus vil des hommes. Maintenant, il y a les femmes aussi, pas oublier. Pourquoi Dieu place les gens les plus vils aux places d'autorité quand Dieu est rejeté par le peuple? Quand le peuple rejette Dieu, eh bien Dieu a un moyen, il place le plus vil à la tête et comme ça le peuple souffre. Voilà comment Dieu a fait, voilà comment Dieu agit. Alors réfléchissez. Je vais vous raconter un fait réel. Vous avez vu que sur Révélation Bible, j'ai mis la photo d'un général qui s'appelait, un général suisse, qui s'appelait le général Guizan, qui est mort dans les années 60, je crois en 1960. En fait, mon père était copain avec son jardinier, et puis le général venait de temps en temps chez le jardinier, il a fait connaissance de mon père, il aimait bien mon père, ils sont devenus copains. Général Guizan. Pendant la guerre, les Allemands s'apprêtaient à attaquer la Suisse et le général Guizan a fait un discours. Il a dit « Peuple suisse, tu as un Dieu, prie ton Dieu, mets-toi à genoux. » Le peuple suisse l'a fait. Les soldats, les premiers, ils se sont mis à genoux sur les places publiques, partout. Les gens ont prié. Vous savez ce qui est arrivé? Les Russes ont attaqué les Allemands par derrière. Les Allemands ont dû se détourner de la Suisse et la Suisse n'a pas été touchée. Voilà un général avec une stratégie chrétienne. Amen. Alors, peuple de France, écoute ce que je te dis de la part du Seigneur aujourd'hui. Je te le dis de la part du Seigneur, et pourtant c'est un vieil écrit qu'on trouve dans les chroniques, 2 chroniques 7, 14 à 16. Voilà ce qui est dit. C'est Dieu qui parle et qui dit « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, les chrétiens, vous portez le nom de Jésus depuis que vous avez été baptisés. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche et qu'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors peuple chrétien, peuple de France et des autres pays aussi, mais bon moi je vis en France. Tu as compris le message ? Ils ont raison de se manifester, les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, ils ont raison de se manifester. Mais nous avons aussi une façon de nous manifester. Nous autres, en tant que peuple de Dieu, sur qui le nom de Jésus est invoqué, pour aider notre pays, c'est de nous mettre à genoux, de s'humilier, de se repentir s'il est besoin. Et Dieu va guérir le pays. Pour que la France soit bénie, il faut que le peuple de Dieu fasse ce que je viens de vous dire. Si vous ne le faites pas et que vous vous plaignez, pardon, vous êtes une bande de lopettes. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes là en train de vous plaindre, en train de gémir. Mais est-ce que vous faites ce que la Bible dit de faire? Le général Guizan a dit, peuple de Suisse, prie ton Dieu, mets-toi à genoux et prie ton Dieu. Ça, c'était quelqu'un. Waouh! Mon père m'a dit après, bon, parce qu'en 1960, il n'était plus le général, c'est normal. Il avait aussi quelques petits défauts, même quelques défauts assez importants. Si vous allez regarder sa biographie, il n'était pas parfait. Qui est parfait? Vous êtes parfait, vous? Il n'était pas parfait, mais là, il a dit quelque chose vraiment, vraiment bien. Et je vous dis la même chose ce matin. Prie ton Dieu, et Dieu guérira ton pays. Bon, on va voir si vous allez le prier, on va voir. Ça va être facile à voir. Le pays va être guéri si vous priez Dieu, comme il dit de le faire. Il faut que le peuple de Dieu fasse ce que je viens de dire. Vous avez des gens qui se disent prophètes des nations et qui vous disent « Ce soir avant 15h, l'argent prend rendez-vous avec toi, tu vas pouvoir sauver ta famille, tu vas pouvoir t'acheter une maison, une belle voiture. » Faux prophète à la noix de coco, taisez-vous, vous salissez le nom de Jésus. Dites aux gens de se repentir, c'est ça qu'un prophète doit dire. C'est pas, vous êtes en train de faire passer Jésus pour un distributeur de monnaie. Vous êtes des mauvais, vous êtes des méchants. Je sais qu'on m'écoute beaucoup en Afrique. C'est surtout les Africains qui font des choses comme ça. Bon, aussi quelques Américains. Vous êtes des faux prophètes. Un vrai prophète, il engueule le peuple, il lui dit, repends-toi, mets-toi à genoux, prie ton Dieu. Alors je ne dis pas que je suis prophète. Ou alors oui, mais je ne suis pas prophète international, je suis prophète intergalactique. Vous voyez combien ça fait ridicule? C'est ridicule, prophète des nations. Mais tout le monde se fout de vous, à part quelques nouillasses qui vous croient, qui vous suivent, qui vous enrichissent. Vous êtes des pourritures. Repentez-vous, mettez-vous à genoux, et Dieu guérira votre pays. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Bien sûr, beaucoup d'agriculteurs et de paysans ne connaissent pas ces choses-là. Ils n'ont pas été élevés de cette manière-là. Alors, ils font autrement. Mais, vous savez, l'autre jour, nous sommes allés pour une visite de routine. À Toulouse, normalement, il faut 1h20 pour y aller. On a mis 3h. Pourquoi? Parce que les paysans bloquaient les autoroutes et tout. Alors, on a pris des petites routes, des petits machins. Mais ils ont quand même... À un moment donné, ils bloquaient. C'était impossible d'aller plus loin. Et il y avait un embouteillage. Mais c'était effrayant. Ça durait. Et puis, tout à coup, on est arrivé devant le barrage où c'était marqué « sortie obligatoire » pour nous emmener dans une petite bled de campagne perdue. On sait même pas que ça, je savais même pas que ça existait, moi, ces bleds-là. On arrive devant les paysans qui étaient là avec toutes leurs machines, comme la mer Rouge. Ça s'est ouvert. Ils nous ont ouvert. Ils savaient pas, on leur a rien dit. Ils nous ont ouvert et on a pu passer. On a pu rentrer chez nous. C'était formidable. On a mis que 3h. Dieu vous connaît. Dieu sait. Ne vous plaignez pas. Allez sur vos genoux et priez le Seigneur. Il fera des choses pour vous. Et il fera aussi pour votre pays, ce beau pays de France, qui va mal en ce moment. Mais ça fait longtemps que je vous dis. J'ai réécouté des vieilles prédications que je faisais dans les années 2014-2015 au château encore. Je vous disais, ça va aller mal. Ça va mal, hein? Partout, dans tous les domaines. Mais le peuple chrétien a un rôle à jouer. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Ah bon? Vous devriez même pas vous poser cette question. Si Dieu le dit, c'est oui et amen. Merci Seigneur de bénir cette parole, qu'elle fasse du bien aux gens. Et s'ils trouvent que j'ai été un petit peu sec ce matin, ah bah tant mieux. Je te prie Seigneur Jésus qu'ils se souviennent de ce que j'ai dit. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Au revoir.